Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir François Hazard, qui nous parle de son actualité, la parution de l'ouvrage Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bezalel Halevi, qui vient de paraître chez Lior Édition. Bonsoir François.
Bonsoir Sandrine.
Alors on ne vous présente plus ici, hein, vous êtes chez vous. Chacune de vos actualités, qu'il s'agisse de livres ou de musique, des éditions Lior Édition, on le rappelle, hein, qui préserve l'héritage judéo-espagnol, est un événement dont on parle. Votre actualité, cette fois-ci, c'est la publication de Salonique, juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bezalel Halevi. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, du récit autobiographique de Saadi Bezalel Halevi, qui a vécu au XIXe siècle entre 1820 et 1903, et donc les premiers mémoires connus d'un juif salonicien qui a vécu au XIXe siècle. L'auteur est né à Salonique, imprimeur et éditeur, il est le fondateur du journal Sepharad en judo-espagnol La Época et du journal de Salonique en français. Proche de l'industriel Moïse Alatini, qui le soutiendra dans ses efforts de modernisation de la communauté juive, il est aussi connu pour son activité de chantre et de compositeur de chants liturgiques. Rédigé en judéo-espagnol à partir de 1881, les mémoires de Saadi Bezalel Halevi offrent un exceptionnel panorama de la vie dans la cité mosaïque de Salonique au XIXe siècle. Autant dire que c'est un témoignage historique hors pair. Il faut quand même préciser que publié sous forme d'extrait dans plusieurs journaux, ce texte a exercé une grande influence sur la manière dont l'histoire des Juifs de Salonique a été remémorée et historicisée. Longtemps donné pour perdu, le manuscrit original rédigé en solétréo, hein, ces cursives hébraïques orientales, a été redécouvert fortuitement à la Bibliothèque nationale d'Israël. Il est alors reparu en 2012 aux presses de Stanford. Et aujourd'hui, les éditions Lior le font découvrir au public francophone en édition bilingue, à la fois en français et en judéo-espagnol, retranscrit en caractère latin. Alors, plusieurs personnes, hein, participent de cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse ?
Alors, la genèse, c'est d'abord la découverte, la redécouverte de ce texte qui était perdu, mais qui avait influencé beaucoup les premiers historiens de Salonique, en particulier, je pense à Joseph Nehama ou à Michael Molro, qui l'avait connu alors sous forme de probablement de tapuscrits et puis sous forme de feuilletons, comme tu disais, dans un certain nombre de journaux judéo-espagnols. Ce texte avait disparu, il a été recherché par plusieurs historiens, en vain à la Bibliothèque nationale de France, où on espérait que le fils de Saadi Bezalel Halevi, Sam Levy, qui vivait en France, ait effectué un dépôt. Et puis finalement, fortuitement, Aaron Rodrigue, à la Bibliothèque nationale israélienne, a découvert un carton dans lequel se trouvait un original du texte en solitréo, donc qui a été ensuite translittéré donc en caractère latin par un grand érudit du séfaradisme, Isaac Yerushalmi, qui était également rabbin, professeur à Cincinnati. Et il l'a également traduit en anglais, ce qui a donné donc lieu à une première publication en 2012 donc aux presses de Stanford, puisque Aaron Rodrigue est professeur d'histoire à Stanford. Donc une édition remarquable d'ailleurs, je dois dire, puisqu'il y avait non seulement une introduction d'Aaron Rodrigue et de Sarah Abrevaya-Stein, mais aussi un glossaire, un lexique. Donc quelque chose de vraiment très précieux pour les historiens, mais aussi pour tous ceux qui veulent comprendre en fait quelle était cette histoire de Salonique, Jérusalem des Balkans, comme on dit. C'est le titre d'ailleurs de l'exposition qui a lieu encore jusqu'au 21 avril au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc cette Jérusalem des Balkans avant, et ça c'est la grande spécificité de ce texte, avant ou au moment où commence cette modernisation de la communauté.
Alors, historiquement, on l'a dit, hein, il y a des choses très très importantes. Des éléments de ce livre de Stanford sont présents, puisque l'introduction notamment, qui est assez longue et assez circonstanciée, a été traduite aujourd'hui en français dans cette nouvelle édition.
Absolument, donc c'est Loïc Marcoux qui a donc assuré la traduction de l'anglais, de cette introduction qu'on a bien sûr souhaité préserver, puisqu'elle est tout à fait remarquable. Il y a aussi quelques cartes qui vont avec. On peut voir également une page du tapuscrit, donc du manuscrit en solitréo. Et surtout, on peut y accéder. Donc, c'est un des privilèges aussi de cette édition. On peut accéder à l'ensemble de ces feuilles donc, qui datent de la fin du 19e siècle sur un site qui est donc à l'université de Stanford. Donc, c'est un travail aussi précieux, y compris pour des étudiants.
Pourquoi ces mémoires sont importantes ?
Alors, ces mémoires sont importantes à plusieurs titres. D'abord, elles ont un statut très hybride, en fait. C'est à la fois un plaidoyer vibrant pro-domo de Saadi Besalel Halevi, donc, qui a subi un traumatisme majeur. On y reviendra peut-être, le RM, donc l'excommunication, le RM Gadol, hein, l'excommunication majeure de sa communauté, parce qu'il était un activiste, si je puis dire, de la modernisation de cette communauté, donc en but à un certain nombre de rabbins, que lui qualifierait de fanatiques, en tout cas de rabbins conservateurs. Donc il est au cœur de ce débat ou de ce conflit vivant à Salonique entre les anciens et les modernes. Puis il y a d'autres aspects évidemment très intéressants dans ce livre. C'est d'abord, ce sont des mémoires, comme tu l'as rappelé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être une tête de série dans ce mouvement des autobiographies qui naît à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où justement des individus se détachent un petit peu de la communauté et prennent la parole en disant non plus « nous », mais « je ». Et ça, c'est aussi important dans ces mémoires. Après, il y a une dimension aussi ethnographique qui est très importante. Alors, il y a un certain nombre de traits traditionnels qui sont rapportés par Saadi Besalel Halevi, avec une vision parfois souvent très subjective. Hein. Donc, par exemple, il parle de son mariage. Alors, c'est une description très picaresque. Hein.
Alors, on va en parler dans un instant, justement. Parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans ce récit.
Il y a beaucoup d'humour, voilà. Ouais. C'est très enlevé, en fait. Il faut parler de ces personnages du monde judéo-espagnol du 19e siècle, mais aussi du 20e, qui étaient des personnages très exalté, en fait. Je pense aussi à Joseph Nehama, qui est une des grandes figures et qui est né justement au moment où Saadi commençait à écrire ses mémoires. Et il fait un portrait d'ailleurs de Saadi Besalel Halevi, qui est presque un autoportrait de lui-même, puisque c'est à la fois des personnages qui se sont un peu construits par eux-mêmes, qui ont une dimension aussi d'autodidacte, qu'ont reçu, qui sont plongés dans le monde traditionnel, hein, et Saadi est croyant, hein, tout à fait. Mais en même temps, ils ont une dimension très exaltée. Moi, je crois que c'est le terme qui convient pour en parler. Et ça parcourt tout son texte. Il y a, c'est un révolté, en fait. Plus qu'un réformateur, c'est un révolté. C'est quelqu'un qui est choqué par les abus des rabbins et qui veut changer profondément, réformer, remettre les choses dans le droit chemin.
Hein. Alors, et précisément, vous le disiez, hein, ce qui motive la rédaction de ce récit autobiographique, c'est l'excommunication du narrateur qui va, du début à la fin, en filigrane ou pas, accompagner ce récit. Comment on en arrive à ça dans une ville comme Salonique, qu'on pensait assez ouverte, même si on est au 19e siècle, et puis surtout opposée à ce qui se passait peut-être plus fréquemment en monde ashkénaze.
Alors, il y a toujours eu à Salonique des moments, des excommunications, alors petites ou grandes. Hein, là, c'est la grande excommunication, l'excommunication Gadol. Dans le cas de Saadi, c'était pas la première fois qu'il était en but à des excommunications. En particulier, tu l'as dit, il était chantre, hein, donc il composait à partir de Makam Turc, et ça aussi c'est intéressant, hein, parce qu'il y a aussi toute cette dimension d'imprégnation de la culture ottomane, de communication avec là en l'occurrence un maître de chant turc, et ça choquait certains rabbins, donc il était excommunié régulièrement. Là, ce qui est intéressant, en fait, déjà la date de l'excommunication de Gadol, du RM Gadol, c'est 1874. Pourquoi c'est important ? Parce que 1874, un an avant a été ouverte à Salonique l'école de l'Alliance israélite universelle, 1873, très poussée évidemment par le docteur Moïse Alatini qui prend la tête du comité de l'Alliance à Salonique, mais avec l'aide de réformateurs comme Saadi Bessalel Halevi, comme Judah Nehama, qui est un autre grand personnage de cette époque. Et puis, un an plus tard, après l'excommunication, 1875, Saadi fonde le journal de Salonique. Donc on est... Pardon, le journal de Salonique. Ils fondent la Epoca, donc le premier journal important judéo-espagnol à Salonique. Donc on est au cœur, cette excommunication intervient au cœur de, au moment vraiment où la modernité est en train de s'imposer à Salonique. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, quelqu'un qui est frappé par l'excommunication, il est mis au banc de la communauté, on ne peut plus commercer avec lui, on ne peut plus entretenir le moindre rapport, il n'est plus compté dans les minyanes, il n'a plus le droit de venir à la synagogue, enfin, il est au banc de la société. Et dans le cas de Saadi Bessalel Halevi, ça ne marche plus. C'est-à-dire que le pouvoir d'excommunication, de mise au banc de la société, dans son cas, ça va s'avérer vain, c'est-à-dire qu'un an plus tard, d'abord son imprimerie, puisqu'il est imprimeur, typographe, continue à fonctionner grâce à des commandes en sous-main de Moïse Alatini et d'autres personnages aussi modernisateurs. Et un an plus tard, il est en mesure de créer un journal qui va s'imposer comme étant vraiment le fer de lance de la modernité, de la modernisation à Salonique. Donc, c'est un moment charnière, c'est un moment où, effectivement, le pouvoir traditionnel des rabbins est en train de leur échapper.
Alors, on sent qu'il est quand même pieux, il y a des formules religieuses dans son récit, mais il est en même temps très critique, pas forcément à l'égard de la religion, mais plus en regard de ceux qui l'accusent de tous les maux et qui en prennent pour leur grade, ce sont les rabbins. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Et juste revenir sur la raison de l'excommunication, c'est son fils qui n'avait pas respecté le Shabbat, je crois, qui fait que le grand Kherem, le Kherem Kadol, est prononcé contre le père et pas contre le fils.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est il y a toute une mise en cause par Saadi du populisme, des fausses accusations, ce qu'il appelle le fanatisme, de la manipulation de la religion à des fins mercantiles. Donc, effectivement, il est... on monte un faux procès contre lui. Son fils, qui n'a pas violé le Shabbat, d'après lui en tout cas, est accusé d'avoir été surpris en train de fumer pendant le Shabbat, alors qu'il était, semble-t-il, en train de servir des notables en grande banlieue de Salonique. Il arrive à démontrer qu'effectivement c'est une fausse accusation, mais le peuple fanatisé et agité par les petits rabbins ne veulent rien entendre. Donc il y a une espèce de chasse à l'homme qui est engagée contre lui. Il est sauvé in extremis par un consul français et il finit par s'abriter chez des francos, donc des personnages comme les Alatini ou les Fernandez, qui sont des grands patrons d'industrie, des grands commerçants, et qui échappent eux aussi à la justice des rabbins, puisqu'ils sont de nationalité étrangère. Donc il va s'abriter chez eux, il va être sauvé par eux. Mais c'est un épisode aussi qui nous parle encore aujourd'hui, je pense, parce que cette manipulation comme ça du peuple, ces fausses accusations, ce fanatisme, c'est quelque chose, malheureusement, on se dit, mais le monde n'a pas tant changé que ça. Donc ça nous parle aussi, de cette... c'est un récit à la fois très éloigné de nous, puisqu'il nous parle d'un monde très traditionnel. Et là, tu as tout à fait raison de parler de cette ambiguïté, de cette ambivalence, en fait, de Saadi Bessalel Halevi par rapport à la tradition. C'est un homme de la tradition. Mentalement, son univers mental, c'est profondément un univers traditionnel, patriarcal. On le voit bien sûr à travers les citations de la Bible. C'est un état, il ne parle pas le français. C'est un moment où justement la communauté est en train de changer. Elle acquiert tout un tas de langues qui sont modernes. L'italien, bien sûr, avec les francos, mais aussi donc le français. L'anglais, Saadi, lui, il vient d'un univers traditionnel, il connaît l'hébreu, plus ou moins bien d'ailleurs, il connaît évidemment le judéo-espagnol et il connaît le turc. C'est ce qu'il définit. Et donc, le fait qu'il s'engage auprès de Moïse Alatini dans un mouvement très réformateur, et qu'il en est même voilà, un fer de lance, c'est très paradoxal par rapport à ce qu'il est lui-même. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur ces personnages qui vont mettre en branle tout un mouvement de réforme de la communauté juive dans l'Empire ottoman. Et ils accompagnent d'ailleurs ce grand mouvement de réforme de l'Empire lui-même, qui est les Tanzimat. Hein. Donc ça s'insère dans un ensemble plus vaste de réformes. On peut s'interroger sur le fait que, est-ce qu'ils n'ont pas finalement sapé, coupé la branche sur laquelle ils étaient assis ? S'ils avaient peut-être compris ce que, à une, deux ou trois générations plus tard, aboutirait ce mouvement de réforme, ils auraient été sans doute très choqués, très perturbés par ça. Et d'ailleurs, son fils, Sam Levy, qui est aussi un grand éditeur de journaux et qui va s'installer en France, lui-même a regretté très profondément l'abandon par sa communauté du judéo-espagnol.
À lire le livre, et on apprend ça dès le début, il y a quand même un autre paradoxe, on parlait des langues, c'est que Saadi Betzalel HaLevi est le fils d'un Ashkenaz du côté de son père et d'une Francos, donc la famille mort pour Gaud du côté de sa mère. Donc ni l'un ni l'autre n'avait le judéo-espagnol comme langue maternelle. Comment lui se retrouve à écrire dans cette langue et finalement à devenir le défenseur et celui qui va préserver jusqu'à aujourd'hui une langue qui n'était pas destinée à être la sienne?
Alors, en fait, c'est une famille, effectivement, tu as raison de souligner cet aspect-là, parce que c'est très intéressant, en fait, dans la définition même qu'on peut faire du séfaradisme. En fait, séfaradisme, c'est pas forcément des gens qui descendent d'exilés de l'Espagne. Et dans le cas, effectivement, de Saadi, il descend, en fait, d'une lignée de grands imprimeurs, de typographes venus de Hollande et d'origine ashkénaze, d'ailleurs. Son nom complet, c'est Saadi Betzalel Ashkenazi HaLevi. Cette lignée est arrivée au milieu du 18e siècle. Donc son arrière-grand-père, qui s'appelait aussi Saadi Betzalel HaLevi, est arrivé en 1742. Il est tout jeune, voilà, il a monté tout de suite des presses avec l'aide du rabbin, d'un rabbin qu'il a rencontré, dont il a épousé la fille, et il s'est très vite assimilé, évidemment, à l'univers dans lequel il était. Il s'est mis à parler judéo-espagnol, et donc évidemment, quelques générations plus tard, Saadi Betzalel HaLevi naît dans une famille où on parle le judéo-espagnol. Quant à sa mère, c'est une Morpurgo, comme tu disais, donc elle vient d'Italie, mais Morpurgo, en fait, c'est la traduction en italien de Marbourg. Donc là aussi, on a une famille qui a fait un long périple depuis aujourd'hui la Slovaquie pour arriver à un moment à Salonique. Et avec, en plus, dans le cas de la mère, on voit qu'elle a aussi une culture occidentale, puisqu'elle sait faire des chemises à l'occidentale. Donc, justement, elle va développer un petit commerce autour de ça.
Et on pourrait penser qu'il est né dans une famille plutôt nantie, comme pouvaient l'être les Francos, mais ce n'est pas le cas. Et donc là, encore une fois, il est à cheval sur deux mondes. Le petit monde, alors qu'il critique aussi, on a l'impression qu'il y a des peintures de la pauvreté qui sont un peu étonnantes, alors que lui la frôle. Et puis en même temps, cet imaginaire du fait que sa mère est une Francos et qui peut-être est plus à la mode que d'autres, et donc on vient chez elle pour demander à confectionner des chemises. Donc là encore, il y a un autre paradoxe.
Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que comme tous les gens qui ont une terreur de tomber dans la pauvreté très forte, eh ben, il dénigre énormément pour bien montrer qu'il fait partie de l'élite. Alors, c'est une élite intellectuelle, puisqu'effectivement, il est journaliste, il est typographe, il est imprimeur. Il est aussi, non seulement il compose le texte, mais il le chante aussi. Donc cet aspect, il est très connu comme chanteur pour sa voix admirable. Donc c'est quelqu'un qui a effectivement des capacités intellectuelles, mais les capacités intellectuelles dans le monde ottoman ne présagent pas d'une fortune. Et donc il a besoin de s'appuyer pour monter ses journaux sur la fortune des Alatini, des Fernandez et autres, des Modiano, des grandes fortunes de Salonique, qui viennent du commerce. Et ce qui est très important aussi dans cette modernisation, c'est de souligner l'aspect économique. Ce qui va faire un des éléments qui va mettre en marche cette modernisation de la communauté, c'est le développement économique de Salonique, la modernisation du port, l'arrivée du train, le fait que les Grecs avaient pris une avance en matière de commerce alors qu'ils ne représentaient qu'une minorité à Salonique. Donc il y a un besoin aussi des commerçants juifs de relever le défi posé par la communauté grecque et de développer leur commerce. Et pour développer le commerce, qu'est-ce qu'il faut ? C'est acquérir des langues, c'est acquérir des compétences profanes en matière de calcul, de comptabilité, etc. Et donc, il faut créer des écoles. Et là, à partir de là, tout le mouvement de modernisation se met en place.
Il y a deux titres à ce livre, Les mémoires de Saadi Bezalel Halevi, mais juste au-dessus, Salonique, juive et ottomane. Est-ce qu'il y a eu discussion par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Salonique était une ville majoritairement juive, ça on le sait, mais en même temps ottomane, et une sorte de creuset du monde levantin, même si on venait d'Europe, avec des origines ashkénazes ou des origines italiennes?
Oui, alors pendant longtemps d'ailleurs, les juifs de Salonique, quand ils allaient à Paris, ils disaient qu'ils allaient en Europe. Donc, ça veut dire qu'ils considéraient que Salonique, c'était bien encore l'Orient. Hein, et je pense que pour tous les Européens qui allaient à Salonique, ils allaient dans une ville orientale. Donc, c'est effectivement une des grandes villes, un des trois grands ports ottomans au 19e, fin du 19e siècle. C'est une ville qui est aussi un des creusets à la fois de ce qu'on peut dire de la modernité ottomane. Hein, Atatürk est né là-bas, d'ailleurs. Hein, avec aussi, on n'en a pas parlé, et ça n'apparaît pas dans les mémoires d'ailleurs de Saadi Bezalel Halevi, cette communauté des Demnés, des convertis, des juifs convertis à l'islam à la suite de Sabbatai Tsevi, et qui vont être des propagateurs de la modernité dans l'Empire ottoman. Le maire, par exemple, de Salonique, puisqu'il y a une municipalité qui se met en place à la fin du 19e siècle, les maires de Salonique ont tous été des Demnés, donc des gens qui étaient à cheval sur ces deux cultures.
Il y a discussion pour Atatürk aussi, dont l'exposition actuellement proposée hommage de photographie peut-être lance le débat, parce qu'on le voit dans une école Demnés, alors qu'on sait qu'il y avait ce sceau du secret qui pesait sur ces familles et que très probablement Atatürk en faisait partie.
Voilà. Alors, il y aura un rêve ottoman. Alors, Saadi n'est pas forcément... Il est profondément ottoman, en fait, dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'il appartient à une des communautés, une grande communauté de l'Empire ottoman. Mais il va se mettre en place dans la communauté juive deux rêves, je pense. C'est son fils qui est le plus... C'est ses fils qui sont les plus représentatifs de ça. Je pense à Daoud, qui est le fils aîné, qui va être fonctionnaire ottoman, ou Sam Levy, qui lui va être à la tête du journal de Salonique. Ces deux rêves qui souvent se chevauchent chez la même personne, c'est le rêve ottoman, le rêve de l'union, de la fraternité des communautés à l'intérieur de l'Empire ottoman, qui va aboutir à la révolution jeune turque et à une déception très profonde, puisque cette révolution jeune turque, qui est ce qu'on appelle l'union des races, hein, c'est une grande fraternisation entre communautés grecques, arméniennes, juives, évidemment turques, bulgares, etc. L'idée que tout d'un coup, toutes ces communautés vont vivre en communion, ça ne va pas durer plus d'un an, et ensuite réapparaît et se développe d'une manière radicale le nationalisme turc. Donc ça, c'est le premier rêve. Et puis le deuxième rêve, c'est le rêve occidental, le rêve français. Et ça, c'est vraiment un rêve. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de cette permissivité, cette liberté des mœurs, ce libéralisme qu'on peut trouver à Paris ou à Vienne, qui est un rêve parce qu'il continue à se marier comme avant. C'est-à-dire que c'est le père qui décide de fiancer son fils ou sa fille. Et il n'y a pas à y revenir. Et d'ailleurs, Saadi... le fils de Saadi, Sam Levy, va avoir un conflit majeur avec son père, hein, pas sur le thème du mariage, mais sur le thème de la gouvernance des journaux.
Alors justement, on parle du mariage. Il y a un don pour la narration. Alors, on le disait peut-être en introduction avant cette interview, c'est pas pour le style qu'on va lire cet ouvrage, mais c'est pour ce qu'on va y trouver comme information historique, et puis parfois aussi la manière dont les choses sont racontées. Et donc, au chapitre 16, Saadi Bezalel Halevi raconte son mariage. que lui non plus n'en voulait pas, parce qu'on imagine souvent, je ne sais pas pourquoi dans l'imaginaire, que c'est difficile pour une jeune mariée, quand elle ne connaît pas son époux, de franchir ce pas du mariage qui lui est imposé. Mais là, du côté du garçon, c'est pareil. Il fait la rencontre de cette femme et il écrit donc sur plusieurs lignes qui sont vraiment particulièrement truculentes et pleines d'humour. Et de là, on en vient aussi au fait qu'il raconte un certain nombre d'épisodes qui concernent les femmes, leurs costumes, leurs mœurs, ce marché des femmes, etc. Est-ce que c'est un anachronisme de dire qu'il était féministe avant l'heure ?
Alors, je pense qu'il était sensible à... Il avait une sœur qu'il aimait beaucoup, dont il parle d'ailleurs au moment de l'épidémie de peste. Il est attentif à cette dimension-là, à travers aussi... quelques épisodes particulièrement violents dont sont victimes des femmes. Il y a un viol, il y a aussi une femme qui est enfermée parce qu'elle a eu un enfant hors mariage et torturée par des rabbins. Donc des épisodes qui ont un côté très, très virulent, très, très décapant.
Et qui sont intéressants parce qu'ils démontrent que finalement l'autorité locale peut aller au-delà de celle des rabbins qui jusqu'à présent géraient toute la vie des juifs de la naissance
oui,
à la mort.
Alors, c'est très... alors là aussi pour les conflits, l'organisation du pouvoir, la façon dont fonctionnait le pouvoir, c'est très complexe à l'époque parce que se superposent plusieurs systèmes. Il y a le système traditionnel qui était un système bicéphale où... On avait sept notables, la Shiva des sept notables, et puis notables laïcs, donc des commerçants, des guévérim, et puis trois rabbins, un triumvirat de trois rabbins. Alors ces deux pouvoirs coexistaient avec des jeux entre eux, des responsabilités différentes, mais qui se chevauchaient parfois. Et puis là-dessus va se rajouter le pouvoir ottoman, qui prend de plus en plus de place au XIXe siècle, en particulier avec l'arrivée d'une municipalité à Salonique, le pouvoir du gouverneur, qui décide en dernier ressort. Et puis, on a le pouvoir des consuls, pour tout ce qui est les ressortissants étrangers, qui sont de plus en plus nombreux dans la communauté juive. Et donc, tous ces pouvoirs cohabitent et jouent avec des jeux des relations qui sont complexes et qui sont bien analysées, mise en lumière grâce à Saadi Bessalel Halevi.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz en compagnie de François Hazard qui nous parle de son actualité, la parution aux éditions Lior de Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bessalel Halevi. Dans cette hiérarchisation, il y a un personnage qui apparaît souvent dans ce récit, c'est le docteur Moïse Alatini. On aurait pu penser que, détenant un certain pouvoir, à l'instar des rabbins, il aurait pu être critiqué, mais pas du tout. Il n'y a aucun mot déplacé par rapport à ce mécène qui a contribué à introduire les écoles de l'Alliance, puisqu'il jouait un rôle à l'Alliance israélite universelle, qui en plus était docteur et qui soignait souvent bénévolement toutes les religions, et pas seulement les juifs, et qui est très présent après l'excommunication de Saadi. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut se fier à sa description de Moïse Alatini ?
Alors, il est évidemment un avocat de Moïse Alatini, c'est un commensal de Moïse Alatini, il lui doit beaucoup, et même peut-être l'essentiel, puisque c'est la création du journal qui est encore aujourd'hui l'élément le plus important en fait, de sa carrière. Moïse Alatini... à travers le texte de Saadi Bessalel Halevi, on discerne deux choses. Alors, c'est évidemment un grand personnage industriel, banquier, philanthrope, etc. Mais c'est aussi un homme de pouvoir. Et la façon dont il exerce le pouvoir, elle est très, très intéressante. Parce qu'il ne joue pas, il cherche évidemment à mettre en place la modernité à Salonique à travers tout un tas d'essais, d'écoles, et ça débute 10 ou 12 ans avant, l'école de l'Alliance israélite universelle, avec d'abord l'école Lippmann, puis ensuite une école italienne. Mais il est très habile dans le sens où il ne cherche jamais, il évite toujours un affrontement direct avec les rabbins. Il ne veut pas rompre, il ne veut pas faire sécession. dans la communauté. Il veut garder l'unité. Je pense que c'est fondamental pour lui. Et donc, il avance pas à pas. Et il a besoin, comme ça, il a besoin, puisque lui-même cherche à garder toujours son crédit et à être en retrait des affrontements, il a besoin de gens comme Saadi Bessalel Halevi, c'est-à-dire des gens qui, eux, vont porter le fer là où il faut. Et donc, il y a ce double jeu qui, pour moi, est intéressant. Jeu de pouvoir avec quelqu'un qui garde son côté souverain, très, très, de rassembleur. Personne ne peut attaquer directement Moïse Alatini. Et il fait très attention, justement, à lui-même n'attaquer personne directement. Mais derrière, il y a tout un certain nombre de personnages. Alors, j'ai cité Judas Nehama parce que c'est un des personnages aussi très importants de cette période et qui est très proche de Moïse Alatini, qui vont justement jouer le rôle d'architecte de cette modernité, d'artisan de cette modernité, en son nom. Et d'ailleurs, dans le texte, je me souviens qu'il y a cette question. Est-ce que tu as parlé en mon nom ? Et alors, il lui dit, j'ai pas osé à certains moments parce que, justement, il veut pas entamer le crédit de la personne auquel il doit tout.
Et puis, il faut dire aussi que Saadi Bessalel Halevi était quand même donc imprimeur et à la tête de deux journaux, La Época, en judéo-espagnol, et le journal de Salonique en français, alors que lui ne le maîtrisait pas. Est-ce que ça peut être quelque chose qui en fait un personnage redouté ? De pouvoir, dans les articles de presse, dire ce qu'il a envie de dire.
Alors, c'est exactement ce que dit Joseph Nehama quand il fait le portrait de Saadi Bessalel Halevi. Alors, je peux lire deux, trois lignes. Hein. Il dit « Il sait tout, voit tout, entend tout, connaît tout le monde. Il a ses entrées dans toutes les familles, fraye avec tout le monde, entretient des amitiés dans toutes les couches de la population, sait parler à chacun sa langue, prêche, catéchise, disciple d'un mot plaisant, superstition et ténèbres, cogne dur sur les obscurants, en ayant soin de mettre toujours les rieurs de son côté. Cet homme est précieux pour ses amis et redoutable pour ses ennemis. » Ça répond à ta question. Effectivement, c'est quelqu'un qui... Ah, en fait, ces journaux sont aussi des journaux de propagande. Alors, ils diffusent évidemment la modernité, en particulier, il y a le thème de l'hygiène, le thème de nouvelles habitudes de consommation... Il y a la publicité qui apparaît dans ces journaux, mais c'est des journaux aussi c'est des journaux de propagande. Et le journal de Salonique apparaît plus tardivement, évidemment, que La Época, quand un lectorat français, et pas seulement d'ailleurs juif, s'est développé grâce aux écoles, grâce à l'œuvre scolaire. Et là, on voit apparaître effectivement un journal qui est un journal proprement moderne, où on fait aussi la chronique de la vie mondaine aussi, qui est une spécificité de ce journal, des bals, et à travers ces bals, le récit de ces bals, on voit aussi qu'il y a toute une dimension sensuelle qui apparaît, même si elle est un peu dissimulée.
Alors, il y a des descriptions aussi qui sont tout à fait intéressantes, historiques, comme un grand incendie dans les années 1830. On sait que les Juifs de Salonique, le jour de Kippour, je crois, priaient pour qu'il n'y ait pas d'incendie, parce que ça pouvait être dramatique. Et lui, en décrit un, donc il vit l'histoire en même temps. Est-ce que le fait que l'écriture de ses mémoires tombe à un moment important, c'est-à-dire le passage de la tradition à la modernité, enfin, c'est un peu bateau de dire les choses de cette manière-là, mais c'est vraiment ça qui font aussi que ces mémoires sont importants.
Oui, alors justement, je reviens juste sur le thème de l'incendie. Je crois qu'il y a aussi, dans la mentalité de ces gens-là, il y a aussi une chose très... Enfin, c'est juif, hein, je dis ces gens-là, mais en même temps, c'est les nôtres.
Oui.
Donc, il y a ce sentiment de la précarité de la vie, de la menace, de l'insécurité qui, en permanence, alors, il y a les incendies, mais il y a aussi les épidémies, il y a les guerres... Il y a tout un tas de facteurs. On n'est pas dans un univers très protecteur. On est toujours menacé par la misère. Donc, il y a cette peur du lendemain qui est très frappante pour nous. Donc je pense que ça fait vrai. Enfin, il faut bien noter cet aspect-là. Le récit des incendies, il y a aussi celui de 1890 hein, qui a été très important. on pense toujours à Salonique avec l'incendie de 1917, effectivement, qui a été terrible. Et en même temps, ces incendies, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi du processus de modernisation. C'est-à-dire qu'on va reconstruire la ville, mais on ne la reconstruit pas de la même façon. On va ouvrir des boulevards modernes, des avenues modernes. On va en profiter, on va abattre les murailles aussi. C'est la période où on crée un quai sur le port. Donc, c'est le moment, enfin, ces incendies redessinent la ville, en fait. Et il y a les assurances aussi, oui, qui apparaissent à cette époque.
Alors surtout celui de 1917, il n'en est pas question évidemment dans ce livre-là, qui finalement détruit la ville juive et qui ne sera jamais reconstruite telle qu'elle était auparavant. Alors vous avez tenu à faire une édition bilingue, pourquoi ?
Alors d'abord parce que c'est une des spécificités de ces mémoires que d'être en judéo-espagnol. On a peu de mémoires de séfarades en judéo-espagnol, parce qu'ils se sont mis très vite avec cette modernisation à écrire dans les langues occidentales. En particulier le français, l'italien, l'anglais, l'allemand. Et là, on a des mémoires en judéo-espagnol dans une langue qui a été encore peu touchée par le gallicisme, par l'invasion de termes français qui va arriver à la fin du 19e siècle. Donc on a un état de la langue qui est celui de la première moitié du 19e siècle, je dirais, même si c'est écrit en 1880. Lui est né en 1820, donc voilà, ça correspond à peu près à ça. Et donc c'est très intéressant, d'où le glossaire aussi qu'on a ajouté pour tous ceux qui sont hispanistes, intéressés par la langue. C'est aussi plus savoureux, je dirais, même si la traduction est excellente, et je dois remercier Marie-Christine Varol, hein, qui a relevé le défi de la traduction, qui est professeure à l'INALCO, grande spécialiste du judéo-espagnol. C'est une très belle traduction, mais évidemment, il y a toujours de l'intraduisible, et là, l'accès au texte original est toujours très important. Je remercie aussi la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a généreusement soutenu ce projet, qui est toujours difficile pour un éditeur dès qu'on parle d'édition bilingue. Mais ça nous permet, voilà, d'avoir cet accès privilégié, direct au texte qu'a écrit Saadi.
Et la photo de couverture est inspirée d'une vraie photo existante.
Absolument.
Du couple.
Donc, voilà, c'est une peinture, mais on a pris une photo du couple. Là, c'est sa deuxième épouse. Il faut savoir qu'il a eu, je crois, 14 enfants, dont 9 de la deuxième, 5 de la première. Là, c'est la deuxième épouse qui est en couverture. Effectivement, dans des habits traditionnels, et c'est toujours très intéressant de voir que dans des habits traditionnels, on peut avoir une mentalité de quelqu'un qui est très modernisateur, et inversement, on peut avoir des gens habillés dans le dernier chic occidental et qui raisonnent, pensent encore de manière très archaïque, très patriarcale.
Et ce sont les paradoxes de la Salonique juive et ottomane. Comme vous le savez, il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi Bezalel Halevi, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que vous allez plonger dans un univers qui est tellement différent du nôtre, tellement, vous avez découvrir un univers très exotique, et en même temps, par passage, d'abord il y a beaucoup d'humour, mais vous allez aussi vous dire que finalement, il y a aussi une dimension très universelle dans ce texte. Je parlais en particulier du thème du populisme, du fanatisme, voilà, de ces chasses à l'homme, de cette chasse à l'homme dont il a été victime. Ce traumatisme, il nous parle encore aujourd'hui, et je pense qu'il y a, il s'insère dans une collection qui s'appelle « Leçons de vie judéo-espagnole », et je pense que là aussi, il y a des leçons de vie qui nous parlent encore aujourd'hui.
Merci infiniment, François, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous présenter votre nouvel ouvrage. Je rappelle le titre, Salonique juive et ottomane, les mémoires de Saadi, Bezalel Halevi, en édition bilingue, qui vient de paraître aux éditions Lior Éditions. Et évidemment, c'est un ouvrage qu'on recommande pour tout ce que vous venez de dire, pour les mémoires, pour le récit historique, pour le passage vers la modernité, pour les questions sociétales, les questions aussi de superstition qui pouvaient habiter ces communautés juives et qui les ont dépassées. Et c'est un vrai ouvrage passionnant et très intéressant à lire. À très bientôt, j'espère. Bonsoir.
Merci beaucoup, Sandrine.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.